Laudetur Jesus Christus.
Le pape de retour pour quelques jours de repos à Castel Gandolfo. À son arrivée, il a exprimé son souhait que cesse le bruit des armes en Ukraine, tout comme dans la bande de Gaza. Léon XIV qui s'est ému de la famine qui règne, la fin un indicateur de la catastrophe humanitaire dans l'enclave. Nous retrouverons notre correspondante à Jérusalem. Un moment de recueillement et de deuil hier en Colombie lors des obsèques du sénateur Miguel Uribe. Il a succombé à un attentat subi au mois de juin. Sa mort pourrait avoir des conséquences politiques à moins d'un an de la présidentielle. Dans ce journal également, nous irons aussi en Côte d'Ivoire où, à l'approche des élections présidentielles du mois d'octobre, l'Église catholique lance dès demain une chaîne de prières pour la paix dans le pays. Et puis dans notre dossier ce matin, en cette année œcuménique avec les 1700 ans du Concile de Nicée, de l'anniversaire du Concile, gros plan sur la fête de la Dormition de la Vierge Marie, célébrée chaque 15 août par les orthodoxes, quand les catholiques célèbrent l'Assomption. Notre invité ce matin, le métropolite Emmanuel de Calcédoine.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, le pape a fait son retour hier après-midi à Castel Gandolfo pour quelques jours de repos. Il y restera jusqu'au 19 août. Léon XIV y célébrera demain la messe en la solennité de l'Assomption, puis récitera la prière de l'Angélus. À son arrivée hier à la Villa Barberini, le pape a répondu à l'improviste à quelques questions de journalistes, souhaitant notamment que se taise le bruit des armes en Ukraine ou à Gaza, s'émouvant devant les populations qui vivent dans la faim. Gaza, où les services médicaux palestiniens enregistrent au quotidien des décès dus à la famine et qui font face à un afflux de maladies de toutes sortes qui sont en train de se propager, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables de la population, comme les enfants. Les précisions à Jérusalem de Valérie Ferrand.
Si le blocus israélien et les bombardements en continu depuis près de 2 ans se font extrêmement meurtriers pour les populations civiles, ils ont également créé un désastre environnemental sans précédent entre les tonnes de déchets de toutes sortes qui s'entassent partout et la famine. Tous ces facteurs combinés ont créé un environnement propice à la propagation de diverses maladies, dont des infections de l'appareil respiratoire, de l'estomac et des intestins, ainsi que de nombreuses maladies de la peau, couplées avec le manque d'eau potable et de produits d'hygiène. Enfants et adultes sont en danger permanent de contracter diverses maladies dont une grande partie serait soignable si les conditions le permettaient. Mais même quand les services médicaux disposent des médicaments, beaucoup de patients ne répondent pas au traitement, leur système immunitaire étant quasi inexistant. Les médecins signalent également de plus en plus de cas de maladies dangereuses, provoquant des paralysies, notamment du visage, et une atrophie de l'ensemble du système musculaire. Ces maladies risquent de se propager à la majorité de la population que l'armée israélienne force à s'entasser dans une zone exiguë de la bande de Gaza. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Le pape a également évoqué hier la soft diplomatie du Saint-Siège, toujours disponible à résoudre les conflits par le dialogue. C'est le cas en Ukraine à la veille de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le président américain qui met la pression sur le président russe, alors que le monde aura les yeux tournés demain vers une base militaire américaine en Alaska. Hier, le président américain a menacé la Russie de conséquences très graves si Moscou entravait les efforts pour parvenir à la paix en Ukraine. Les Ukrainiens restent très sceptiques sur l'issue de cette rencontre. Rien ne sera décidé sans l'Ukraine, a redit le chef de cabinet du président Zelensky. Le président ukrainien qui est attendu à Londres ce jeudi où il sera reçu par le Premier ministre Keir Starmer. Celui-ci a évoqué hier une réelle chance de parvenir à un cessez-le-feu grâce à la médiation du président américain. De nombreux Colombiens ont salué hier la mémoire de Miguel Uribe Turbay, ancien candidat de droite à la présidentielle de l'an prochain. Il est mort lundi dernier après avoir reçu 2 balles dans la tête au mois de juin en marge d'un meeting politique. Au-delà de l'onde de choc, son assassinat pourrait avoir des répercussions sur la campagne présidentielle à moins d'un an des élections. La correspondance à Bogota de William Gazo.
Justice, adieu Miguel, ces mots de soutien ont accompagné le dernier voyage de Miguel Uribe Turbay jusqu'au cimetière central de Bogota, mardi 12 août. D'autres messages, qui sonnent comme des slogans, ont également suivi le sillage du cortège funéraire. Des dehors Petro et autres assassins clairement dirigés contre le président de gauche se sont ainsi élevés au-dessus de la foule de sympathisants réunis dans les rues de Bogota. À moins d'un an des élections présidentielles, l'écho politique de la mort de l'ex-candidat de la droite conservatrice se fait déjà ressentir. L'assassinat de l'ex-sénateur va, je cite, « changer le narratif de la campagne présidentielle », estime Laura Bonilla, directrice adjointe de la Fondation Paix et Réconciliation. La disparition du populaire Miguel Uribe Turbay laisse un vide important mais alimente aussi le discours de ses collègues du Centre démocratique, aspirant à la présidence. Le parti de droite dure a fait de la question sécuritaire son cheval de bataille pour la présidentielle et critique vertement l'actuel gouvernement incapable d'endiguer la violence des groupes armés. Avec la mort de Miguel Uribe, la question des causes et des responsables de cette violence va s'imposer, avance Laura Bonilla, pour qui la récupération politique du tragique événement a déjà commencé. Bogota, William Gazo pour Radio Vatican.
La présidente péruvienne Dina Boluarte annonce une loi d'amnistie pour les crimes commis dans les années 80 et 2000. Entre les années 80 et 2000, des années noires au Pérou qui ont vu s'opposer les guérillas comme le Sentier Lumineux aux forces de police et de l'armée. Et cette amnistie est fortement critiquée par les défenseurs des droits humains, mais aussi par l'ONU et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Le conflit entre les guérillas maoïstes et les autorités péruviennes a fait au moins 70 000 morts et 20 000 disparus. Partons à présent sur le continent africain. En Côte d'Ivoire, les tensions politiques persistent en raison de la candidature pour un quatrième mandat de l'actuel président Alassane Ouattara, mais également du retrait de la liste électorale de plusieurs leaders d'opposition. À l'approche de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain, la commission épiscopale Justice, Paix et Environnement de l'Église catholique ivoirienne initie une chaîne de prières pour la paix dans le pays. Elle commencera demain 15 août et aura lieu jusqu'au 25 octobre. Le père Norbert Abécan est le secrétaire exécutif national de la Commission Justice, Paix et Environnement et revient sur cette initiative.
Nous avons voulu, au niveau de la sous-commission Justice, Paix et Environnement, proposer une chaîne de prière, la prière, le rosaire. Nous intitulons cela le chemin avec la Vierge Marie pour la paix en Côte d'Ivoire. Quand nous regardons sur le visage, nous voyons beaucoup de peur, d'inquiétude. Quand nous sommes un peu attentifs aux propos dans des groupes, dans nos paroisses, dans la communauté, c'est la peur, c'est l'inquiétude, parce que l'on se souvient de tout ce qui a été vécu, les différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues, et surtout la dernière, 2010-2011, la crise électorale, où il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de morts. Officiellement, on parle de 3000 morts. Nous disons que la guerre n'est pas une solution. La politique ne doit pas nous diviser. Et puis, le langage que je vois, est-ce que certaines personnes qui pêchent en nos troubles ne veulent pas nous pousser sur le chemin de guerre de religion? Ça a failli arriver. Il y a eu des églises qu'on a cassées, il y a eu des mosquées qu'on a cassées, il y a eu des temples qu'on a cassés avant les élections. Donc, à nous d'être attentifs et que nos responsables politiques et administratifs soient attentifs à cela.
Le père Norbert Abécan, secrétaire national de la commission Justice et Paix ivoirienne, interrogé par Jean-Paul Kamba. Au moins 40 décès liés au choléra enregistrés en une semaine dans la région du Darfour à l'ouest du Soudan, c'est ce que rapporte ce jeudi Médecins sans frontières. En plus d'une guerre civile généralisée, les Soudanais font actuellement face à la pire épidémie de choléra que le pays ait connue depuis des années, déplore l'ONG. La France brise un tabou au Cameroun. Le président Emmanuel Macron a envoyé une lettre mardi à son homologue Paul Biya dans laquelle il reconnaît la guerre menée contre les mouvements de décolonisation. Le président français reprend les conclusions d'un rapport d'historien montrant l'implication des autorités coloniales dans de nombreuses violences qui ont marqué l'histoire du pays. Un acte mémoriel qui n'est pas passé inaperçu chez les différents acteurs camerounais. À Yaoundé et Baïsongué.
La reconnaissance par Emmanuel Macron de la guerre menée au Cameroun avant et après l'indépendance de 1960 a provoqué un large éventail de réactions au sein de l'opinion publique. Mathieu Diancé, président de l'Association des vétérans du Cameroun, n'a pas tardé à réagir. Il a déclaré au micro de l'AFP que la France a commis de nombreux crimes au Cameroun. Elle doit payer des réparations. Des propos qui soulignent un désir croissant de justice et de reconnaissance des souffrances infligées par la colonisation. Sur les réseaux sociaux, le cinéaste camerounais Jean-Pierre Bécola a également exprimé son avis, affirmant qu'il était impératif que justice soit rendue suite à cette reconnaissance. Le journaliste franco-camerounais Olivier Enogo, quant à lui, a salué cet acte de reconnaissance, l'évoquant avec émotion sur son compte Facebook. Cependant, toutes les voix ne se réjouissent pas de cette déclaration. Certains acteurs de la société civile signalent que de nombreuses démarches demeurent incomplètes de la part de la France. Ils regrettent l'absence d'excuses claires de la part d'Emmanuel Macron pour les atrocités commises par les troupes française au Cameroun. Parallèlement, une partie de la population camerounaise perçoit cette reconnaissance comme une tentative de la France de redorer son image à un moment où le sentiment anti-français semble croître dans ses anciennes colonies. Eba Isongue, à Yaoundé, pour Radio Vatican.
Un nouveau naufrage au large des côtes italiennes hier. Une trentaine de personnes sont mortes à seulement 14 000 nautiques des côtes de la petite île de Lampedusa, parmi lesquelles un nouveau-né. Une centaine de migrants étaient montés dans une embarcation avant que celle-ci ne chavire. 675 personnes sont mortes depuis le début de l'année en Méditerranée centrale. Le pape célébrera donc demain à Castel Gandolfo la messe de la solennité de l'Assomption. Dans l'église orthodoxe, on célébrera le même jour la dormition de la Mère de Dieu, la mort douce de Marie, très explicitée dans l'iconographie chrétienne. L'Assomption est représentée par une Vierge enlevée, corps et âme vers le ciel. Dans la tradition orthodoxe, la Mère de Dieu est sur son lit de mort, entourée par les apôtres, tandis que son âme, sous la forme d'un nouveau-né, est recueillie par le Christ. Cet épisode sur la fin de la vie de la Vierge n'est pas raconté dans la Bible. Il est en revanche évoqué par certains écrits apocryphes qui remontent au VIe siècle. Alors que nous célébrons cette année le 1700e anniversaire du Concile œcuménique de Nicée, occasion de réflexion sur le cheminement de l'œcuménisme, nous donnons la parole ce matin pour parler de la dormition au métropolite Emmanuel de Chalcédoine.
Pour les orthodoxes, on parle de la dormition. On voit cela aussi exprimé pas seulement dans les hymnes qui parlent de la dormition de Marie dans le rituel orthodoxe, mais aussi dans l'iconographie. Dans l'iconographie, nous avons l'icône de la dormition où la Vierge sur son lit de mort, entourée par les apôtres, et il y a le Christ qui reçoit son âme comme un bébé émailloté. Maintenant, dans la tradition catholique, l'Assomption, la Vierge monte au ciel, entourée par des anges. Moi, c'est ça que je vois comme différence, qu'on parle d'un côté de la dormition, donc Marie, étant donné qu'elle est la mère de Dieu, elle a connu la mort, mais son âme a été reçue par le Christ lui-même.
Dans la tradition orthodoxe, comment célébrez-vous la dormition? Quelles sont les particularités de cette célébration?
C'est une période de jeûne pour la préparation pour la fête qui est appelée souvent la Pâque de l'été. Donc c'est une fête très importante. Tous les mois d'août, je dis que, puisque après le 23 août, il y a aussi la clôture de la fête de la dormition. Donc, il y a pratiquement tous les mois qui est réservé à la Vierge.
Pour vos fidèles, quel est le sens de la dormition?
Toute personne peut connaître la mort, ça c'est tout à fait normal, mais elle peut également donc connaître la résurrection, puisque le Christ ne s'est pas arrêté uniquement à la mort, mais il a été ressuscité. Donc, c'est lui qui nous a donné ce signe et cet espoir donc à la vie éternelle. La Vierge, qu'est-ce qu'elle nous a montré? Elle nous a montré l'obéissance et nous a montré qu'il y a un exemple de la vie vraiment chrétienne. Elle a connu la mort, mais elle a connu aussi la vie éternelle.
Nous sommes, vous le savez, dans l'année du 1700e anniversaire du Concile de Nicée. L'occasion nous est donc donnée de réfléchir sur le cheminement œcuménique. Dormition et Assomption constituent-elles un exemple de rapprochement entre catholiques et orthodoxes?
Absolument, absolument. C'est très important de fêter le 17e centenaire donc, du Concile de Nicée. Et c'est où il est dit que le Christ est né de la Vierge Marie. Et c'est fait homme. Voilà, donc ça, c'est ça qu'il faut garder. Donc il n'y a pas de différence dans la théologie, comme elle est exprimée. Moi, je pense que le plus important, c'est de voir que, aussi bien de la tradition orthodoxe que de la tradition catholique, il y a beaucoup de similitudes et il y a aussi une grande importance pour l'exemple de Marie, pour nous tous, pour nous les chrétiens.
Interrogé par Jean-Charles Puzzolu, le métropolite Emmanuel de Chalcédoine était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h, heure de Rome, pour une nouvelle édition. N'oubliez pas d'ici là, vaticannews.va. Excellente journée.